Voilà, que le Seigneur bénisse ces moments cet après-midi ensemble. Et c'est un réel plaisir de se retrouver aussi autour de la parole de Dieu. Alors je voudrais en préalablement vous dire que je voudrais cet après-midi évoquer des points qui seront peut-être délicats ou difficiles à comprendre. Parce que moi-même, il m'a fallu des années pour les méditer, pour réfléchir, pour prier et pour avoir une intime conviction. Alors ce n'est pas difficile dans le sens que c'est compliqué, c'est peut-être difficile dans le sens où il est important de mettre toutes les vérités de la parole ensemble et de les équilibrer afin qu'elles s'emboîtent les unes dans les autres. Et c'est ce que nous allons faire, essayer de faire en partie cet après-midi, et je m'excuse d'avance si ça va aller un peu vite, mais vous reprendrez ces thèmes et vous les méditerez pour vous-même. Ce sont des pistes pour vous permettre peut-être d'explorer des chemins que vous n'avez jamais pris. Alors nous étions avec les deux colonnes, nous avons bien compris l'exhortation. En m'approchant de Dieu, eh bien j'ai deux rappels tout d'un coup. Quand je m'approche vers Dieu, eh bien j'ai une colonne qui me dit « c'est Dieu qui bâtit ». Et l'autre colonne qui me dit « c'est par ma force que les choses sont faites ». Et une fois que je suis en contact avec Dieu et que je retourne dans le monde, je repasse devant ces deux colonnes, comme faisait le souverain sacrificateur, devant ces deux colonnes, Jacquim et Boaz. Nous allons prendre, bien sûr, cet après-midi, le sujet collectif. Ce matin, on a essayé d'être un peu plus personnel. Mais quand des gens sont ensemble, qu'est-ce qu'ils font, à part de former une équipe de foot? Qu'est-ce qu'ils bâtissent? Nous nous rendons compte que les êtres humains se mettent ensemble et construisent. Dieu avait dit « croissez, multipliez, remplissez la terre ». D'accord? Mais que se passe-t-il? Quelques chapitres plus tard, dans Genèse 11, ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. » La brique servit de pierre, le bitume servit de ciment, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Donc là, nous découvrons que le projet, c'est l'opposé de ce que Dieu avait indiqué. Restons ensemble, faisons-nous un nom, alors que l'Éternel s'était fait connaître, mon nom est l'Éternel, et touchons le ciel. Bref, devenons nos propres dieux. Et quand l'homme bâtit, il bâtit selon ses pensées, selon ses objectifs, et laisse totalement, toujours, le plan de Dieu. Nous connaissons la fin de l'histoire, comment Dieu a amené la confusion à ce projet afin que finalement les hommes se dispersent sur toute la terre. Et pour toucher le ciel, il a fallu une petite brique. C'est un élément très simple mais qui, mis bout à bout, aboutit à de grandes choses. La société d'aujourd'hui vit encore selon ces mêmes motivations. Vous me direz, mais il n'y a plus de tour de Babel. Mais si, l'homme veut toucher le ciel, devenir Dieu et s'opposer au plan de Dieu. Alors nous verrons dans quelques instants que le plan de Dieu et sa construction aujourd'hui est tout à fait simple. Je bâtirai mon église. Mais avant de prendre l'église, nous pouvons encore regarder combien la motivation humaine, c'est de tout faire sauf l'église. Ou si elle bâtit des églises, c'est souvent des caricatures de l'église telle que Dieu la voulait. Alors la brique d'aujourd'hui, une des briques d'aujourd'hui, s'appelle la data. Donc c'est un petit élément très très simple, dématérialisé, qui est en fait une donnée. chaque fois que vous ouvrez votre ordinateur, votre portable, vous laissez des données. D'accord ? Ces données, elles partent sur l'immense toile qui s'appelle donc Internet. Ces données restent, s'accumulent, et c'est exponentiel. Des milliards de données sont ainsi ramassées. Vous êtes peut-être étonné parfois de chercher sur l'ordinateur, tel type de fleurs ou de nourriture, et pendant plusieurs jours, vous recevez des publicités. Tiens, ça colle avec ce que j'avais demandé. Par les données, on vous connaît. Tout ce que vous faites est stocké quelque part. C'est retenu, c'est exploité, c'est analysé. Et aujourd'hui, bien sûr, on peut faire le profil de tous les êtres humains, savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils achètent, quel est leur principal intérêt. Quand on parle avec quelqu'un sur Internet ou par les applications en chat, et ça s'appelle comme ça, mais les données sont tellement grandes que c'est devenu une tour. Les briques mises bout à bout sont devenues une tour qui touche le ciel, qui va remplacer Dieu et qui va permettre pendant un temps un contrôle total des êtres humains par quelques personnes. Alors aujourd'hui, le développement profond, pour ceux qui en ont entendu parler, s'appelle le ChatGPT, qui permet non plus de chatter avec une personne, mais de prendre des éléments de la machine. On chatte avec la machine. Vous voulez écrire un roman, vous donnez le titre du roman à la machine et la machine vous pond un roman. Vous pouvez avoir une entreprise, confier votre entreprise à la machine et elle fera bien mieux que n'importe quel leader d'entreprise avec des réponses beaucoup plus riches, immédiates et rapides. Ça s'appelle EI ou I, non, IA, pardon. IA, intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle a passé avec succès les examens de barreaux aux États-Unis. Donc l'être humain devient totalement dépendant, perfusé à une machine. C'est la nouvelle tour de Babel. Le philosophe Michel Onfray, qui se dit athée, est effrayé de la tournure de la société d'aujourd'hui qui construit un substitut au spirituel, avec une connexion au nouveau ciel, puisque toutes nos données sont stockées dans des clouds, donc des nuages. Donc voyez, faisons une tour qui touche le ciel. Quand on connaît la Bible et les prophéties bibliques, nous nous rendons compte que les constructions humaines, aussi fantastiques, prometteuses qu'effrayantes qu'elles soient, n'auront pas le dernier mot. Après tout, elles ne l'ont pas eu dans le passé. Et je pense à cet homme qui prend la parole et qui dit, vous l'avez dans Daniel 4, « Oh, c'est Babylone, la grande Babylone que j'ai construit, que j'ai bâti par la puissance de ma force. » Donc, moi, j'ai mon Jacquin, moi, j'ai mon Boaz, j'ai pas besoin de Dieu et de sa sagesse. Hein? Par la puissance de ma force, pour la gloire de ma magnificence. La parole est encore sur sa bouche que patatrac, tout s'écroule. Et un jour, les organisations humaines s'écrouleront. Alors, ce n'est pas un thème que nous pouvons voir cet après-midi, parce que nous n'avons pas le temps, mais je veux simplement vous dire que les hommes n'arrêtent pas de construire. Mais souvent, ce qu'ils font n'est pas du tout selon la sagesse divine. Même les valeurs de la société, les tournures et les tendances que prennent ce qui se passe aujourd'hui est plutôt effrayant dans tous les domaines. On a voulu aussi construire, en prenant un peu de la Bible, mais en prenant juste la coquille. Vous savez, comme Jésus décrivait ces gens religieux qui étaient blanchis au dehors, mais qui au dedans, c'était pas du tout ça. Donc ils avaient l'apparence, mais ils en reniaient ce qui est la force. Et au Moyen-Âge, il y a eu un type d'association, puisqu'on est dans la construction, on va en dire un mot, des confréries de métiers. Au départ, l'idée n'était pas mauvaise, et elles ont grandi dans le milieu protestant, qui garantissent à ses membres une formation et un soutien. Donc, les personnes clés au Moyen-Âge et après le XVe siècle, c'était donc surtout les maçons qui se transmettaient leur savoir. Donc, s'est développé un devoir de compagnonnage où le maître transmet à l'apprenti toutes les ficelles du métier, on dira. Et donc, ces organisations se sont développées et ont permis de transmettre un savoir, une excellence de savoir. Et puis, cela a dépassé le cadre de simplement construire des édifices, travailler le bois, travailler la pierre. Mais ces maçons libres, dont la traduction française est franc-maçon, vont vouloir créer une société éclairée, où on va se transmettre le savoir. Et donc, c'est cette vocation de construire par des individus animés de droiture, d'épanouissement personnel, vont se développer et vont prendre dans la Bible des éléments pour se libérer de tous les carcans. Et à l'époque, surtout en Écosse, il y avait l'influence des réformateurs, donc le célèbre théologien Knox, qui prêchait et qui va vouloir se libérer d'un totalitarisme religieux et va alimenter cet état d'esprit. Nous sommes libres, nous sommes indépendants. Et finalement, nous devenons indépendants de Dieu. Bien, on va garder des choses, bien sûr, des choses bibliques, belles, comme la construction du temple. Et les francs-maçons, quand ils se réunissent en ayant dans leurs locaux toujours deux colonnes. Il y a la colonne Boaz et la colonne Jacqueline. Ils ont les deux colonnes. Mais leur idéal, c'est de se parler entre eux, de s'éclairer par leur intelligence afin de construire une société éclairée et influencée positivement sur l'humanité. Maintenant, j'arrête là pour revenir à notre thème. Ce que Dieu veut faire, c'est bâtir son Église. C'est pas bâtir une société éclairée. Ce n'est pas tout à fait le même objectif. Mais en disant cela, nous pouvons affirmer que l'Église est le projet de Dieu que le Seigneur a promis de bâtir et de bénir. Après avoir dit cela, on n'est pas plus avancé. Parce que ça se recomplique à nouveau et vous allez dire, mais quelle Église faut-il bâtir ? Il y a tellement d'églises. Tout le monde ne croit pas la même chose. Vous prenez l'ensemble du christianisme. Mais que de différences, que de couleurs différentes, que de convictions différentes. Qui a raison ? Alors c'est là où je vais pouvoir vous donner des perspectives bibliques qui seront des pistes de méditation que vous reprendrez par moment, et qui vous seront utiles, donc comme on a des personnes de plusieurs églises, pour votre église, afin de mieux comprendre comment regarder l'église. La première chose qu'il faut dire, c'est que la Bible dit dans Corinthiens 3:9, nous sommes ouvriers avec Dieu. Alors c'est intéressant. Dieu nous associe, il dit je bâtirai l'église, mais nous sommes ouvriers avec lui. Et ainsi, ouvrier est un mot qui est la traduction de synergo, qui donne synergie. C'est-à-dire ben, des gens, des compagnons, on revient au compagnonnage, des compagnons qui se mettent ensemble pour pouvoir faire ensemble quelque chose qu'ils n'auraient pas fait aussi bien séparément. Et ce que Dieu a voulu quand il bâtit l'Église, c'est y associer le concept de synergie. Ce qui signifie que quand vous voyez un chrétien dire « Ah non, mais ce que les autres pensent, c'est pas bon. Il n'y a que moi qui pense comme il faut. » Donc là, il n'est pas dans la synergie. Il est à côté, quelque part. On ne peut pas bâtir tout seul. Alors c'est vrai que des chrétiens peuvent être une telle bénédiction qu'ils amènent beaucoup de gens au Seigneur, qui va devenir une église. Mais ça, c'est... Bâtir l'église va demander quand même un rassemblement de pierres vivantes qui sont constituées par les chrétiens. Et donc, quand nous lisons dans Romains 16 des salutations, il est parlé de mes compagnons d'œuvre, saluer Prisca et Aquilas, qui sont mes compagnons d'œuvre. C'est le mot synergie. C'est la traduction de ce synergie. Donc, l'idée que par la parce qu'il faut tout le miracle de Dieu pour que des personnes tellement différentes puissent être ensemble pour œuvrer dans le même sens, avec le même objectif, eh bien, c'est une vraie bénédiction. Nous allons maintenant regarder un autre verset, Éphésiens 2, et nous allons essayer d'entrer dans le concret. Vous avez été édifiés sur le fondement. Alors, donc là, il est écrit à une église d'Éphèse, une église établie. Si Paul nous envoyait une lettre à nous au XXIe siècle, il nous dirait: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. En lui, ou par lui, hein, en quelque sorte, donc ça c'est la colonne Boaz, tout l'édifice bien coordonné, la colonne Jacquin, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc Dieu, là, nous éclaire par Paul. Paul écrit à Éphèse, mais il pourrait écrire à votre église, à l'église de Pau, sur le fondement des apôtres et des prophètes, l'église sera bien coordonnée. Et ça, c'est un point fondamental qu'il faut méditer, on y passe un peu vite. Dieu a donné pour fondement les apôtres, les prophètes. Et ainsi est arrivé au premier siècle, quand l'Église a commencé, la révélation de l'Église. La révélation de l'Église est quelque chose d'assez extraordinaire qui a été bien expliqué dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit. Aux saints apôtres et prophètes. Retenez cela. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en l'Évangile. Donc j'ai été fait ministre selon le don de sa grâce qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Dieu a rassemblé juifs et non-juifs pour former un corps spirituel qui s'appelle l'Église. Nous avons dans ce développement des expressions qui parlent du mystère, qui représentent bien la colonne Jachin, la vision de Dieu, ce que Dieu va édifier. Et cela va se faire justement par l'efficacité de sa puissance, la colonne Boaz. L'église de Pau et votre église doivent être absolument fondées sur les apôtres et les prophètes. Mais si les apôtres et les prophètes font partie du fondement, la grande question, est-ce qu'un apôtre existe aujourd'hui ? Est-ce qu'un prophète existe aujourd'hui ? Nous découvrons que pour bâtir son église, acte 2, 42, l'église persévérait dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Le don d'apôtre, si vous dites tel que son mot signifie être envoyé, oui, des gens sont envoyés, des missionnaires sont envoyés, et il y a toujours eu des apôtres qui apportent la parole de Dieu. Et souvent, notre enthousiasme et notre élan, on a des termes qui englobent du vrai, mais qui ne sont pas assez précis, qui sont trop génériques. Être envoyé de Dieu, c'est être un apôtre. Dans ce sens, il y a des apôtres. Mais si nous parlons d'un apôtre qui reçoit la révélation de l'Église, de ce que l'Église doit être, de la parole de Dieu qui constitue le Nouveau Testament, ce fondement est placé et n'existe pas aujourd'hui. Il est en place et nous construisons sur lui. C'est pareil pour les prophètes. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14 quelle est la définition d'un prophète. Un prophète parle aux hommes, les édifie. Et édifier, c'est le même mot grec que bâtir. Les exhorte, les console. Parle-t-on de dons de prophétie aujourd'hui ? Si vous invitez un prédicateur qui touche les cœurs, et vous avez croisé des prédicateurs remplis de l'Esprit de Dieu, qui bouleversent les cœurs, édifient, consolent, vraiment nourrit l'Église. Souvent on dit c'est vraiment un don de prophète. Il m'est même arrivé parfois de parler dans une église et tout d'un coup un membre s'est fâché avec son pasteur. Pourquoi ? Parce que j'ai parlé d'une situation, sans dire de nom bien sûr, mais qui correspondait tellement à ce que la personne vivait que la personne a cru que le pasteur m'avait parlé d'elle. Et en fait, Dieu avait conduit les choses pour que je lui parle. Si vous appelez ça le don de prophétie, c'est vrai, c'est pas vrai. Dieu conduit, heureusement, aujourd'hui, les prédicateurs, mais ils ne peuvent pas révéler une vérité qui n'a jamais été révélée. Il ne peut que prêcher que sur la base de la parole de Dieu. Et en cela, il viendra un temps... Si ce sujet est nouveau, vous devrez décider si la Bible est suffisante, si elle est complète ou pas. Parce que si elle est complète, les apôtres qui ont été le fondement avec les prophètes ont établi l'enseignement de l'Église et nous bâtissons dessus. Nous bâtissons sur quelque chose qui est posé. Vous voyez ? Donc, Paul dira, vous pouvez vous rendre compte de la connaissance du mystère sur lequel je vous écris. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Et la Bible nous dit, dans Colossiens par exemple, étant enraciné et fondé à lui, affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, abondez en action de grâce. Les apôtres ont transmis les épîtres du Nouveau Testament. Et ce fondement a été reçu. Les autres serviteurs du temps des apôtres s'appuyaient sur les apôtres. Acte 2, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils ne cherchaient pas eux-mêmes à ajouter des révélations. Vous savez que Paul déclare ceci, que ces lettres doivent être suivies, parce que si elles ne sont pas suivies, c'est de désobéir à la parole de Dieu. Arrêtez-vous et réfléchissez par exemple à des versets comme 2 Thessaloniciens 3,14. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, non, pardon, c'est pas ce verset, et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le et n'ayez plus de communication avec lui. Mais vous vous rendez compte si quelqu'un parlait comme ça aujourd'hui? J'écris un tel, et si vous n'obéissez pas à cette lettre, alors, mais pourquoi Paul peut parler comme ça? Parce que le retour du chrétien par rapport à la lettre, c'était un retour par rapport à la parole de Dieu. Et le fondement, c'est cela. Aujourd'hui, je ne peux pas poser un autre fondement que celui qui existe. Mais par contre, je suis redevable de la manière dont je bâtirai sur ce fondement. Et c'est vrai que dans l'enthousiasme, et c'est une bonne chose d'être enthousiaste, très zélé pour le Seigneur, nous pourrions penser que nous pouvons vivre tout ce qu'ont vécu toutes les personnes de la Bible. D'ailleurs, ça semble une belle idée, mais ce n'est pas du tout la volonté de Dieu, puisque l'Église est comparée à un corps et tous les membres du corps n'ont pas la même fonction. Donc, le pied ne peut pas dire « je ne ressemble pas à une main, donc je ne suis pas du corps ». Et de plus, il y a des choses qui ont été faites par les apôtres, les prophètes, parce qu'ils participaient au fondement. Jésus-Christ étant la pierre angulaire, on va dire quelques mots là-dessus aussi. Aujourd'hui, il y a un grand mouvement qui ébranle, qui complique les choses dans la vie de l'Église, c'est le nouveau mouvement apostolique. Puisqu'il y a une branche de chrétiens, il faut le savoir, pour qui la révélation continue. Mais si quelqu'un vient et dit « Dieu m'a dit que », il se met au même rang que les auteurs de la Bible. Mais à ce moment-là, où ça s'arrête? Combien de Bibles sont écrites? Nous croyons, en approfondissant les textes, que la Bible est une révélation suffisante et complète. Et que c'est sur elle que nous bâtissons. Donc il y a, dans ce mouvement des nouveaux apôtres, un des chefs de lance qui s'appelle donc Bill Johnson, qui parle du ciel qui envahit la terre. Mais le ciel qui envahit la terre vient de ce principe de domination. Je suis en Christ, je peux vivre tout ce que vivent les apôtres, je peux accomplir tous les miracles qu'ils accomplissent, et donc je domine sur tout. Et ainsi, le ciel s'installe, puisque je suis vainqueur, donc je vais vaincre tout, les sociétés vont devenir chrétiennes, et ainsi le Seigneur pourra revenir. Et quand on étudie les révélations de ces nouveaux apôtres, c'est totalement une autre direction que celle que prend les prophéties bibliques et la direction biblique. Puisque si je suis en Christ, je suis vainqueur. Il n'est pas question pour moi d'être malade, pauvre ou perdant. Ce nouvel évangile tient pour acquis que Dieu accorde tout, tout de suite, à tous ses enfants. Et c'est cette visibilité des évangéliques qui est retenue par les médias. Donc, ces chrétiens font des choses assez parallèles à la Bible, qui ressemblent à la Bible, mais qui ne sont plus tout à fait bibliques, comme d'aller s'allonger sur la tombe des grands hommes de Dieu pour recevoir leur onction, pour montrer qu'ils sont inspirés et écrivent leurs épîtres, puisqu'il y a toujours des épîtres qui sont écrites, n'est-ce pas, par l'écriture automatique. Alors l'écriture automatique, c'est une personne qui se met dans un état de louange, de transe, et qui tout d'un coup va écrire plein de choses, sans en être vraiment conscient, avec une sincérité parfaite. Et d'après ces personnes, les phrases ainsi conçues sont la révélation du Saint-Esprit. Il y a aussi, et j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec certains d'entre eux, où on se sentait vraiment dans un autre monde, où les personnes disaient « je suis monté au ciel plusieurs fois », où plusieurs fois j'ai vu Jésus assis derrière moi dans la voiture, me parler. Mes chers amis, ne nous laissons pas ébranler par ces choses-là. Nous arrivons dans des temps de confusion grandissante. Ce n'est pas du tout le ciel qui va s'installer sur la terre, mais c'est plutôt des ténèbres. La nuit devient de plus en plus noire avant qu'apparaisse le Seigneur. Et nous sommes dans des temps où tout est mélangé. Alors nous ne parlerons pas de l'évangile de la prospérité qui a fait des dégâts considérables. Et d'ailleurs, le pasteur de la Maison Blanche qui avait intronisé le président Trump, je l'ai entendu de mes oreilles dire « Si vous ne donnez pas, vous n'aurez aucun miracle dans votre vie. » Quel chantage! Quelle déformation de l'évangile! Vous voyez, l'évangile, la parole de Dieu, demande de la profondeur, de la réflexion, de l'humilité, de la prudence. Et c'est comme cela qu'on bâtit. Paul déjà évoquait les faux apôtres et prophètes. Et ça n'a pas disparu. Et quelle tristesse si vous avez suivi les grands reportages d'Arte sur les évangéliques, où c'est cet angle-là qui finalement est développé. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant s'il y a 2 semaines, sur les infos nationales, on voit le désastre de 75 morts au Kenya, et où on voit un pasteur menotté ayant conduit son église à la mort dans un enseignement faux sur le jeûne et la prière. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Et c'est pour cela qu'il faut vraiment se serrer les coudes, prier pour les anciens, pour ceux qui ont la charge de conduire une église, car qu'est-ce qu'il leur est demandé vraiment? La Bible dit qu'il faut que l'évêque soit attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Donc elle est déjà en place. On ne peut pas comme ça tout d'un coup inventer l'évangile. C'est en place. Une fois révélé, tout responsable d'église s'attache à une parole enseignée. Paul dit à Timothée, « Ce que tu as reçu de moi, transmets-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » Donc il y a une transmission de la parole de Dieu et non pas une révélation successive à chaque génération. Tite 2.1 « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Et c'est vrai que cet évangile-là est capital. Vivre en Christ, c'est construire avec lui une église. Mais vous me dites alors, mais je croyais que Dieu voulait éloigner le mal, éloigner la souffrance. Ça nous semble normal. On ne peut dire qu'amen dans un sens, mais vous ne pouvez pas rayer de la Bible 1 Pierre 1,6. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour peu de temps par diverses épreuves. Et vous allez les mettre où, ces épreuves? Si pour vous c'est le signe ou de l'incrédulité ou d'une attaque du diable. Se faire à l'idée que même des larmes peuvent contribuer au progrès de l'Évangile nous semble presque incohérent avec la vision des nouveaux apôtres qui balaient toutes les difficultés. Philippiens nous dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé, donc il est en prison, hein, a contribué au progrès de l'Évangile. Personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » Et la plupart des frères encouragés par mes liens ont plus d'assurance pour annoncer la parole de Dieu. Et c'est une feuille de route dans les gens de Hébreux 11 qui ont vécu par la foi. À un moment donné, il est parlé au verset 39, « Tous ceux-là n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. » Des hommes de foi, ils ne l'ont pas obtenu, donc ils ne l'ont pas eu pendant leur temps de vie. Les apôtres et les prophètes ont eu la révélation, et tous les anciens, tous les pasteurs se sont arrimés à cette révélation et bâtissent dessus. Si c'est dans la parole de Dieu, c'est bon. Si ce sont des révélations nouvelles, nous ne pouvons pas les mêmes mettre au même rang. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Et il est écrit dans 1 Corinthiens 3,11, bâtir l'Église, c'est poser le fondement de Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et selon la Bible, le christianisme par nature pose un fondement immuable. Marc 12 rappelle, vous n'avez pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Mais qui bâtissait à l'époque? C'était les Juifs. Elle est devenue la principale. Et celui qui croit en elle n'est pas confus. Il sait où il va, il sait ce qu'il bâtit. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Il s'y heurte. Parce que la pierre de l'angle est devenue une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Oui, la Bible est un rocher de scandale et de chute aussi. Si Dieu me permet d'avoir un fondement, ce fondement, je dois m'accrocher. Pour que Christ soit votre fondement, il y a 3 choses. Croyez-vous que Jésus-Christ soit le seul médiateur entre vous et lui pour votre salut? Car là aussi, quand on dit Jésus-Christ est le fondement, plein de gens vont dire oui, mais pour beaucoup de gens, il y a plusieurs Jésus. Il y a le bon, il y a les pas bons. Et même la Bible avertit là-dessus, de Corinthiens 11, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, nous pouvons être séduits, nos pensées peuvent être corrompues et détournées de la simplicité à l'égard de Christ. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, vous le recevez facilement. » Tiens, la Bible dit qu'il y a plusieurs Jésus. Le saviez-vous? Pour beaucoup de gens, disent, ah ben, tu crois au Jésus? Ah ben c'est bon, on est frères et sœurs, on est tous chrétiens. C'est pas si simple que ça. Parce que si vous me dites je crois en Jésus, je vais vous demander mais lequel? Et là, vous allez, oh là là, lui il cherche la, cherche les poils sous la tête, là, il y a quelque chose, il va trop loin. Mais la Bible le dit. Si quelqu'un vous prêche notre Jésus, vous le recevez fort bien, un autre esprit que celui que vous avez reçu. Il y a toutes sortes d'esprits, de vie, d'expression spirituelle. Mais toutes ne sont pas spirituelles. Ou un autre évangile. Vous savez qu'il y a plusieurs évangiles. Enfin, je ne parle pas de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Hein. Mais lequel avez-vous reçu? Alors, revenons au fondement. Nous avons une Bible révélée une fois pour toutes, un seul Jésus. Et pour ce qui est de Jésus, trois choses incontournables. Jésus est le seul médiateur pour que je puisse parler à Dieu. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel je puisse être sauvé. C'est exclusif. Je peux admirer toutes les personnes de la Bible. Je peux admirer l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, Joseph, Marie, les martyrs, des grands hommes de Dieu. Je peux tous les admirer, m'en inspirer. Mais un seul ne peut être que mon salut, c'est Christ. C'est le fondement. Le deuxième repère pour que Christ soit le fondement, c'est la façon dont il a vécu devient un modèle pour moi. J'accepte Christ qui a pris ma place à la croix. Et une fois identifié à lui, eh bien je porte ma croix. Non pas pour gagner le ciel, mais je m'identifie à lui et s'il a été persécuté, je pourrais être aussi persécuté. Je vis comme lui a vécu. La Bible me dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ ». Donc, tout ce qui rayonne de Christ, sa façon d'être, son désintéressement, tout son comportement devient ma seconde nature, en quelque sorte. Et la troisième chose, c'est que Christ est le centre. Il est le centre de mon adoration. Il prend toute sa place dans mon cœur. Et je le laisse vivre, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Une église bâtie sur le fondement a pour centre Jésus-Christ. Vous savez, il y avait un roi dans l'Ancien Testament, vous avez l'histoire dans 2 Rois chapitre 16, c'était le roi Akaz qui a voyagé, il va en Syrie et il voit un autel, comme l'autel qu'il y avait donc au temple. Il voit un autel magnifique. Oh, il se dit, mais je veux le même dans le temple. Il est plus beau d'ailleurs que celui qu'on a fait. Eh bien, il décide de faire construire d'après le modèle qu'il voit en Syrie. Et il construit cet autel. Et finalement, après avoir flashé sur cet autel, eh bien, il installe. Et l'autel principal d'avant, il est un peu encombrant. Alors on le met de plus en plus de côté, puis finalement on le fait disparaître. Le premier autel qui avait été construit selon le modèle que Dieu avait donné. Et la Bible dit au verset 14, « Il éloigna de la face de la maison l'autel des reins qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne soit plus à l'entrée. Il le plaça sur le côté. » Vous savez, beaucoup de choses aujourd'hui reproduisent ce phénomène. On voit de très belles choses dans le monde, on les prend, on les amène dans l'église. Et l'original, on le pousse de plus en plus de côté. On le remplace par de nouveaux Jésus, par un nouvel évangile, par de nouvelles visions, par de nouveaux comportements. Et on a perdu le fondement. Et beaucoup de gens pensent que de revenir à toute la parole de Dieu, à la doctrine, ça pourrait être une cause de division. Il est vrai que si on n'aborde pas ces questions-là, si on accepte tout et son contraire, on devrait avoir la paix. Après tout, c'est l'ère du temps où il faut être hyper tolérant avec tout. Vous savez que Christ a été une cause de division. Jean 7, verset 43, « À cause de ces paroles, il y a eu division parmi la foule. » Si on s'en tient au fondement, à la parole de Dieu, il y aura des tensions et des divisions. Mais nous devons rester unis, unis dans la parole de Dieu et dans l'amour fraternel. C'est le ciment qui nous unit. L'Esprit de Dieu nous unit, nous fait surmonter nos différences de caractère, de personnalité, mais on est unis aussi par la doctrine. Et s'il y a une division, qu'elle soit apportée par la parole et non pas par votre caractère. Parce que là, vous auriez tort. Le but de Dieu, c'est que, Éphésiens 4, nous ne soyons pas des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine. Emportés, c'est la traduction du mot péripho qui a donné périphérique. Quand on est emporté par des idées nouvelles, qui ont peut-être un parfum évangélique, hein, eh bien, on part à la périphérie. On n'est plus au centre des choses. Et notre Église veut être au centre. Pas plus ou moins centre de peau, mais surtout au centre de la parole. Pas périphérique à la parole. La Bible nous demande de croître dans la vérité et la charité afin que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Néanmoins, nous dit Timothée, le solide fondement de Dieu reste debout. Malgré tout ce qui se passe, le solide fondement de Dieu est là, de Timothée 2,19. Et bien sûr, il y a un processus très très important pour ce qui concerne ce mot de d'être debout, d'être solide. C'est la traduction d'un mot grec que ceux qui aiment la musique connaîtront bien, c'est le mot stéréo. Alors, c'est quoi la stéréo? C'est le contraire de mono. Alors, en mono, le son est... Voilà, il est ce qu'il est, mais en stéréo, il est établi, il remplit l'espace. Et le sens grec, c'est il est établi, il est solide. Il est debout, il est bien établi. L'Église, quand quelqu'un rentre dans l'Église, elle doit avoir des jeux, elle doit entendre un effet stéréo. Non pas simplement par le groupe de louanges, mais dans le comportement, dans les paroles qui sortent de votre bouche, dans votre modération, qu'il y a quelque chose de solide, de profond. La Bible dit que nous sommes des pierres vivantes. Et Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est vrai que, pour en revenir à l'autel, il avait été bâti selon un modèle. Aujourd'hui, est-ce que j'ai un modèle pour bâtir l'Église? Mon modèle, c'est Christ. C'est comment il était, comment il s'est sacrifié, comment il n'a fait aucun cas de sa vie. L'Esprit de Christ doit être en moi. Et Paul dit, imitez-moi comme moi j'imite Christ. Et Paul dira à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement. Évidemment, puisque Paul avait reçu l'enseignement de la part de Dieu. Mais tu as suivi de près ma douceur, ma joie, ma paix, ma constance. Et ce que Paul dit, voilà, tu as vu ce que tu as vu, vis-le, et que les gens te prennent pour aussi un modèle. Quelqu'un avait dit un jour, parlant de l'Église, Si quelqu'un entre dans votre église, est-ce que vous voulez que la personne qui vient pour la première fois, est-ce que vous voulez qu'elle vous ressemble? Quel challenge, quel défi! Bâtir une église, c'est répandre le parfum de Christ. Nous avons un fondement. Et ce n'est pas un enseignement mort, puisque toute la personne divine, hein, l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ, fait sa demeure en nous et va magnifier la personnalité de Dieu. Mais concernant toutes les choses, bien sûr, que Dieu fera, toutes ces bénédictions, il en est souverain. Quand je vous ai dit tout à l'heure, certains n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, dans le même chapitre, il est aussi dit que d'autres l'ont obtenu. Dieu peut conduire quelqu'un à une guérison soudaine, Dieu peut conduire quelqu'un à une bénédiction très particulière qu'il a décidé de sa propre autorité. Et nous devons nous réjouir avec lui. Mais la construction de nos vies individuelles est tellement différente d'une personne à l'autre. Dieu permettra telle chose arrive facilement. Quelqu'un prie, boum, le lendemain il a le travail. Et d'autres galèrent et n'arrivent pas à décrocher un emploi. Pourquoi cette différence? Dieu le sait. Mais l'Église aussi est constituée de plein de choses. Mais il y a un fondement, on a une parole. On a une parole. Et la Bible dit que nous sommes des pierres vivantes, 1 Pierre 2:4, vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alors c'est assez étonnant ce rapprochement de pierre et de vivant. Ceux qui connaissent la construction, bon, une pierre, elle est faite pour être à un endroit, elle n'a plus à bouger. Hein. Il ne faut pas qu'elle soit vivante, qu'elle se déplace. Une pierre vivante. Il y a à la fois un côté de stabilité, un côté immuable, mais il y a la vie aussi. Il y a la vie. Et nous devons nous édifier et grandir. C'est le chantier de Dieu. L'Église est un défi énorme, parce qu'il faut bien le reconnaître. L'Église est ballottée par des nouvelles doctrines sans arrêt, sans arrêt. Nous n'avons pas toujours conscience, et c'est peut-être aussi bien, mais il y a énormément de turbulences. Alors, c'est pour cela qu'il est important de prier pour les conducteurs spirituels, parce que ça prend beaucoup de temps de se mettre au pied du Seigneur, de regarder, d'être sûr, d'avancer avec sagesse, avec discernement, mais ça en vaut la peine. Moi j'ai vu des gens qui aimaient tel type d'église avec telle chose et qui a dit bon ben je vais plus venir chez vous, mais ce que je regrette chez vous c'est qu'on lisait, étudiait la Bible. Bon, je ne sais pas trop où il allait, mais enfin bon. C'est quand même malheureux. J'étais à Mantes-la-Jolie quand ça m'est arrivé ça. On avait fondé une église et un chrétien est arrivé qui était déjà chrétien, mais il voulait telle expression de vie chrétienne qu'il n'y était pas. Mais il allait retourner dans un cercle qu'il connaissait. Mais par cela, il avouait aussi. Je reviens dans un endroit où on lit pas, où finalement on n'approfondit pas la Bible. On tourne toujours autour de 2 ou 3 thèmes, c'est tout. Il y a encore, et je terminerai par cela, une chose qui m'a frappé dans Néhémie chapitre 4. À ce moment-là, c'était les murailles de Jérusalem qui étaient rebâties, et quelqu'un qui s'appelait Sambala a appris que les murailles étaient rebâties. Et ça l'a vraiment irrité. De la même manière, quand des chrétiens se mettent ensemble et veulent honorer la parole de Dieu, il y a des gens qui ça ne plaît pas. Ça a toujours été le cas. Et ce n'est pas toujours un fleuve tranquille, et il ne faut pas en être affolé. Il se moqua des Juifs, s'emballa, et dit devant des frères et devant les soldats, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants ? Les laissera-t-on faire ? Vont-ils achever leur œuvre ? Redonneront-ils vie à ces pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu ?» Et puis il ajoutera, « Mais quand renard s'élance, et tout va s'écrouler. » Bref, il disait, « Mais ce que vous faites, ça ne va pas, ça vaut rien. » Et il y avait beaucoup de moqueries. Pour quelqu'un qui était persuadé qu'un renard allait faire écrouler la muraille, il était quand même assez inquiet. Pour eux, ceux qui bâtissaient, c'était des gens impuissants, des gens qui ne faisaient rien de bon, ils n'arriveront pas à achever. Et ils ne vont pas redonner vie à ces pierres ensevelies sous des morceaux de poussière. Et je voudrais que vous reteniez cette phrase. L'apôtre Pierre dit, vous êtes des pierres vivantes. Parfois, certains d'entre nous, nous finissons par croire ceux qui se moquent de l'Église. C'est-à-dire que nous non plus, nous ne croyons pas que l'œuvre sera achevée, que le travail sera fini. Je vous ai dit que Dieu finit ce qu'il commence, avec la création, la rédemption, Israël, les nations, mais l'Église, qu'il va faire paraître devant lui, irrépréhensible, sans tache et parfaite. Et quand la première fois que j'ai mis les pieds dans une église, je ressemblais à une pierre ensevelie sous la poussière. Moi-même, j'étais complètement mort, je ne savais rien de Dieu, complètement poussiéré, dans une vie complètement perdue. Mais ceux qui bâtissaient l'église sur un fondement révélé m'ont apporté l'évangile, j'ai reçu l'évangile et je suis devenu une pierre vivante faisant partie de l'édifice. Mes chers amis, parfois nous baissons les bras parce que nous croyons finalement les mensonges des moqueurs. Ils n'achèveront pas, ils n'arriveront pas jusqu'au bout. Reste-t-il attaché à la parole de Dieu? Mais ça ne marche pas, c'est dépassé tout ça, c'est vieux. Il y a des trucs bien plus modernes, il y a des façons de faire tellement modernes. Ah bien sûr, on peut recevoir de plein fouet, plein de critiques. Mais nous devons avancer dans la paix, dans la conviction que Dieu donne vie à ces pierres empoussiérées. Et que nous ne perdons pas du temps quand nous accueillons quelqu'un dont la vie est compliquée et on le ramène sur les fondements. Sur les fondements de la foi qui a été transmise au saint une fois pour toutes. On ne se trompe pas, on est dans le cœur des choses. Et si vous-même, vous êtes peut-être, oui, une pierre, vous aimeriez faire partie de l'Église. Vous savez que quand vous vous convertissez, vous faites déjà partie d'une Église. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon Église. Il n'a pas dit « je bâtirai mes églises ». Donc mon église est sur singulier. Et son église est composée de l'ensemble de tous ceux qui s'attachent au fondement qui est Jésus-Christ. Après, pour se développer, pour exprimer et partager ce merveilleux message, Dieu a voulu des églises locales qui sont une toute petite représentation de ce que c'est l'église du Seigneur. Et si vous cherchez une église locale, cherchez une église et regardez quel fondement elle a, qu'est-ce qui l'a fait vivre, qu'est-ce qui l'a fait tenir. Est-ce que c'est la personnalité d'un individu? Est-ce que c'est un programme particulier? Moi j'ai connu une église qui avait des témoignages particulier, il n'invitait que des vedettes ou des gens qui avaient des témoignages incroyables, j'ai tué 3 personnes, enfin, des trucs hors du commun. Alors il y avait du monde qui venait chaque dimanche, un témoignage incroyable. Et puis quand il n'y a plus eu ces témoignages, les gens se sont arrêtés de venir. Tout était basé sur le sensationnel. Quand vous arrivez en disant « je me suis converti dans le club d'enfants et je suis heureux de connaître le Seigneur », ça attire pas les foules. Hein. Mais c'est le fondement aussi. C'est aussi réjouissant qu'un criminel qui se convertit. Et cet après-midi, vous-même, avez-vous le Seigneur dans votre cœur ? Êtes-vous devenu une pierre vivante ? Est-ce que vous êtes sûr d'être sauvé ? Je vais vous proposer que nous nous recueillions. Il y a peut-être quelqu'un qui dit aujourd'hui, « Eh bien, Seigneur, tu m'as aimé, tu as donné ta vie pour moi. » Et dans les mots qui sont les vôtres, vous lui dites, « Seigneur, je t'accepte dans mon cœur. Je veux être ton enfant. Je veux devenir une pierre vivante. Je veux être posé sur le fondement de ta parole, sur le fondement de Jésus-Christ. Seigneur, viens purifier mon cœur, entre dans ma vie. Construis ma vie de tous les jours. Je te donne tout, Seigneur, je te donne mon cœur. » Vous faites cette prière de tout votre cœur. Et qu'à partir d'aujourd'hui, vous puissiez dire, « Oui, je connais mon Sauveur. Et j'ai enfin trouvé celui qui va donner la force de construire. » Jacqueline et Boaz. Pour avancer jour après jour. Seigneur, nous te remercions de tout ce que tu nous permets de voir dans ta parole. Aide-nous à la dispenser droitement. Donne-nous ta sagesse. Donne-nous de ne pas être emporté à tout vent de pensée, de doctrine, et d'être sage et savoir discerner les choses les meilleures. Garde-nous près de toi, Seigneur, comme tu l'as fait jusqu'ici. Bénis chaque église représentée aujourd'hui. Et merci, Seigneur, de ta présence et de ce que tu veux nous accompagner jour après jour. Amen. Amen.